Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi à la radio sur RMC, la télé RMC Story, canal 23 de la TNT. Et on est très heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. Une nouvelle semaine en compagnie de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Voilà, Victor Porcher qui se fera un plaisir de relayer tous les messages sur le WhatsApp d'Estelle Midi dont on va redonner le numéro, Victor.
Au 06 12 424 424, on a déjà Thierry et Tal qui ont réagi, mais on vous attend.
Eh bien écoutez, super, nous sommes également avec le propriétaire de Gide, Jérôme Lavrieux. Bonjour Jérôme.
Bonjour Estelle.
Vous avez passé un bon week-end, vous avez l'auteur allé Jérôme.
Ouais, c'était d'accord. Un bon week-end, sympa. Ouais.
Très bien, vous avez engrangé plein d'argent tout ça?
Moyennement, ça a été.
Ah bon, d'accord, bon, écoutez, très bien Jérôme, j'attendais une autre réponse, que voulez-vous. Mais c'est déjà pas mal, nous sommes également avec l'ancienne avocate Yael Mellul. Bonjour Yael.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Ouais,
merci d'être avec nous avec l'actualité, on a bien besoin de votre vision. Et puis également, c'était un grand retour dans Estelle Midi, il est tout bronzé, tout allé. Et également, c'est notre grand reporter Baptiste Desmontiers. Vous étiez en reportage Baptiste?
Pas du tout, j'étais en formation pour ma future vie de paysagiste. Donc j'apprenais des conventions collectives, etc. C'était pas une lubie, non, mais je suis très sérieux.
Eh ben écoutez, je suis
ravie. Je suis toujours journaliste, mais je m'apprête à avoir une nouvelle casquette.
Journaliste paysagiste.
Pourquoi pas,
ça arrive. Journaliste livraire, un journaliste écrivain, et nous aurons bientôt un journaliste paysagiste dans cette émission. Estelle Midi, c'est l'émission de la polyvalence, sachez-le. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler de Mathilde Panot qui réclame la démission de Gérald Darmanin après le décès de la petite Liana. D'accord, pas d'accord, le garde des Sceaux doit-il démissionner? Dites-nous tout au 32-16. On parlera également de la France, championne d'Europe des taxes. 348 taxes différentes en France. Est-ce que notre administration est devenue folle? On en parlera à midi et demi. Et puis 62% des Français vont restreindre leur budget pour les vacances. Est-ce que vous seriez prêts à faire des sacrifices pour partir cet été? Eh bien là encore, on attend vos réactions, vos commentaires.
RMC Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC et on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est Mathilde Panot qui réclame la démission de Gérald Darmanin après les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire du décès de la petite Liana. Le suspect Jérôme B avait fait l'objet de plusieurs signalements mais n'avait jamais été entendu par la justice. Mathilde Panot, la chef de file LFI, qui pointe la responsabilité politique du garde des Sceaux. Écoutez.
Je veux aussi dire à quel point je trouve indigne d'avoir un garde des Sceaux qui a été aussi ministre de l'Intérieur, qui est responsable politiquement de, à la fois, une clochardisation de la justice, comme l'appellent les magistrats eux-mêmes, c'est-à-dire une baisse des moyens année après année à tous les services publics, notamment à la justice, mais un problème qui n'est pas juste un simple dysfonctionnement, mais qui est un problème systémique. En France, en 2026, on continue de mourir d'être un enfant ou une enfant. Il y a une responsabilité politique de M. Darmanin, de ses prédécesseurs et de M. Macron.
Alors, pour l'instant, pas de démission à l'ordre du jour pour Gérald Darmanin, mais qui a décidé, en revanche, de mettre la pression sur les magistrats, Victor.
Oui, coup de pression qu'on peut résumer en une consigne claire, un message lancé hier. Aucun haut magistrat ne partira en vacances tant qu'il ne les aura pas reçus un par un, et il leur laisse jusqu'au 14 juillet, Gérald Darmanin, pour reprendre 70 000 plaintes qui touchent aux enfants. Ça correspond au nombre de plaintes dites en attente. Depuis le début de l'affaire, le garde des Sceaux préfère pointer des responsabilités individuelles plutôt que celles du système global. Il parle de manque de bon sens, de manque de sens des priorités. Il a rappelé, par exemple, qu'il avait donné comme consigne de mettre ce genre de plainte en haut de la pile. La réponse des magistrats ne s'est pas fait attendre. On manque de moyens. Je vous donne deux chiffres. En France, il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants. C'est 4 fois moins que la moyenne de l'Union européenne. Deuxième chiffre, chacun de ces procureurs traite plus de 2000 dossiers par an. C'est 5 fois plus que nos voisins. C'est un record d'Europe. Ce soir, il y aura plus de 150 rassemblements devant des tribunaux à l'appel d'associations qui, elles, réclament une loi intégrale, c'est-à-dire une loi qui remettrait à plat tout le système judiciaire.
Et Gérald Darmanin qui s'exprime en ce moment même et qui demande à faire toute la vérité sur cette affaire. Alors, le garde des Sceaux doit-il démissionner? Évidemment, je m'adresse à vous, Yael Mellul, qui est ancienne avocate.
Alors, d'abord, je voudrais dire à quel point je suis bouleversée depuis l'annonce de la mort de la petite Liana. Je suis bouleversée et très en colère. Parce que ça fait plusieurs années maintenant que nous sommes très très nombreux, que ce soit les magistrats, les avocats, les associations, les militants, féministes ou pas, peu importe, que nous hurlons quant à au caractère misérable de la justice qui n'a pas du tout le moyen de ses ambitions. Nous hurlons parce que aussi les enfants, la protection des enfants, la protection des plus vulnérables n'a jamais été une priorité. Mm-hmm. Mais jamais. On a demandé des moyens, on ne les a pas eus. On a demandé des effectifs, on ne les a pas eus. On a dit, et je l'ai tellement dit même ici, devant vous, que c'était littéralement une question de vie ou de mort. Littéralement. C'est-à-dire qu'on a entre nos mains la vie des plus vulnérables, la vie des oubliés, la vie des invisibles. Et on en a fait quoi? Ben voilà, on en a fait qu'aujourd'hui, on a une petite de 11 ans qui est morte. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il y a des responsabilités individuelles. Mais
c'est le cas.
On verra, je ne sais pas. On attend le rapport de l'inspection. Je ne peux pas préjuger aujourd'hui des responsabilités individuelles. Ce que je peux dire dès aujourd'hui, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une faillite de l'État quant au traitement des affaires de violence en général, quant au traitement des affaires des plus vulnérables. On a, ça a été rappelé, on a 3 procureurs pour 100 000 habitants. On peut faire toutes les circulaires qu'on veut, on peut faire tous les signalements qu'on veut. Si on n'a pas des procureurs qui sont armés avec des moyens, des effectifs pour pouvoir traiter de ces plaintes, on n'y arrivera pas. On a un taux de condamnation de 3% sur les affaires de violence.
Mais quand des agriculteurs, parce qu'ils mettent 3 bottes de foin dans la rue, ils sont convoqués le lendemain au commissariat, comment tu peux expliquer que là-dessus il n'y a pas de problème, que les casseurs à Paris,
Estelle,
parce qu'ils ont tiré un coup de mortier en l'air, eux, ils sont en comparution immédiate, et que il y a un signalement pour le viol d'une gamine de 10 ans, et que la juge d'instruction, elle met 2 mois pour passer un coup de fil, ben moi je suis désolée. Après, tu peux me dire que c'est une histoire de gouvernement et d'État. C'est pas Gérald Darmanin qui a pas passé le coup de fil.
C'est pas comme ça que fonctionne la justice. Je veux dire, pour les affaires, tu as juste titre, tu rappelles, par rapport aux agriculteurs, par rapport aux manifs qu'il y a pu avoir, aux émeutes. Ça, c'est un choix politique. D'accord?
Ouais.
C'est un choix politique qui a été fait par le ministère.
Bah, c'est dramatique.
Donc, il en va de la responsabilité du ministre. Donc, aujourd'hui, c'est au ministre de nous rendre des comptes. D'accord?
Mais le ministre, si j'ose imaginer qu'il préférerait qu'on traite une histoire de viol d'une gamine de 10 ans plutôt que de 3 bottes de paille sur l'autoroute.
Le ministre.
Est-ce qu'on est obligé d'avoir une directive?
Si le ministre de la Justice, il veut qu'on priorise les affaires de violence sur enfants,
il faut qu'il le dise noir sur blanc.
Oui,
c'est pas la logique.
Ce n'est pas noir sur blanc, c'est une question de politique pénale, c'est une question de donner les moyens aux enquêteurs et aux parquetiers pour agir. Il ne s'agit pas simplement de faire une circulaire. Dire, on a entendu 1000 fois tous les ministres, que ce soit de la justice, de l'intérieur, venir sur tous les plateaux de télé nous dire qu'il y avait une priorité au trafic de stup, qu'il fallait être hyper radical contre les émeutiers. D'accord. Ou est-ce que vous les avez entendus sur la protection de l'enfance?
Mais non, mais parce que pour moi, ça tombe sous le sens.
Non, la preuve que non, Estelle. C'est une question de politique pénale. Il faut une tolérance zéro. Et est-ce que vous croyez qu'en nous nommant comme Dupond-Moretti, ministre de la justice, qui a été l'avocat des mises en cause dans l'affaire Outreau, c'était un symbole qui était fort sur la protection de l'enfance. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après l'affaire Squarneck? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après l'affaire Bétaram? La réponse est non. Il ne s'est rien passé. Voilà.
Jérôme Lavrieux, est-ce que c'est un scandale d'État ce qui s'est passé dans cette affaire Liana?
Moi, je pense que c'est le scandale d'un corps qui est en roue libre. Je vais vous donner juste une chose. Des journalistes qui sont licenciés pour faute professionnelle, il y en a régulièrement. Mmh. Des hommes politiques qui sont battus aux élections parce qu'ils n'ont pas bien accompli leur mandat, il y en a des palanqués tous les ans à chaque fois qu'il y a une élection. Un ouvrier qui fait mal son travail, il y en a souvent qui sont virés pour faute professionnelle. La dernière fois qu'un magistrat du siège ou du parquet a été démis de ses fonctions pour faute professionnelle, avéré. C'était il y a 20 ans. C'est le juge Burgot. Donc il y a 2 solutions.
Non, le juge Burgot,
il n'a pas été démis de ses fonctions.
Non.
Pour dernière fois qu'a été viré un magistrat.
L'affaire Outreau.
Pour faute professionnelle, c'était il y a 20 ans. Donc il y a 2 solutions. Soit on a un corps de la magistrature qui est exempt de tout reproche, qui est magnifique. Soit on a un corps qui ne reconnaît jamais qu'il est faillible. Voilà. C'est ce qui arrive. Dès que le ministre définit la politique pénale,
oui.
On ne va pas demander la tête d'un des rares ministres qui n'est pas arrivé il y a 10 ans comme ministre de la Justice, qui a pris une circulaire pour dire « Messieurs les procureurs généraux, messieurs et mesdames et messieurs les procureurs généraux, mesdames et messieurs les procureurs, je veux que les poursuites qui concernent les affaires pour les enfants, les mineurs, soient une priorité. »
Enfin, il vient de le dire là.
Non. La circulaire, elle a été prise il y a plusieurs mois. La circulaire, en la matière, a été prise il y a plusieurs mois. Là, il a rappelé la circulaire. Moi, va pas m'expliquer que c'est le ministre qui doit appeler le procureur du ressort de Toulouse pour dire au procureur de Hoche, qui est quand même pas le centre du monde en termes de milliards de dossiers qui seraient sous le coude, hein.
Ah si. La brigade de gendarmerie, au moment du traitement de l'affaire, de cette affaire de la petite Yana, il y avait 200 affaires courantes.
Tu me parles de la brigade de gendarmerie. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi moi, mon courrier, il met 2 jours pour arriver quelque part, pourquoi il met 1 mois pour aller d'un procureur à un procureur. Et qu'il est pas ouvert tout de suite, alors qu'il y a un red flag dessus. Il y a des clignotants.
Il y a 9
partout.
Affaires hein, sur Jérôme B, le suspect. Il y a 9
absolument.
Affaires.
À force de dire que ça n'est jamais.
Il
n'a
même pas été entendu.
Mais même le ministère de l'Éducation, l'Éducation nationale est concerné par cette problématique.
Si tu me permets, à force de dire qu'il n'y a jamais aucune responsabilité individuelle, on ne fera jamais avancer le sujet.
C'est pas vrai.
D'accord ? Parce qu'on dit ah ben c'est la faute à tout le monde, donc c'est la faute à personne.
Ben non. Est-ce qu'il faut faire un exemple pour le coup, même si c'est peut-être pas la faute de Gérald Darmanin, Baptiste Desmontiers, mais est-ce qu'il faut faire un exemple et frapper haut et donc au sommet? Le sommet, c'est le garde des Sceaux.
Moi, je pense qu'il y a bien d'autres problèmes que la question de la tête et de l'avenir politique de Gérald Darmanin. Je suis assez d'accord avec Jérôme sur cette position. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des juges qui condamnent et qui ne sont jamais condamnés. On ne peut pas avoir un système qui prononce des décisions et qui n'est lui-même jamais soumis à ces questions et à ces décisions. La réalité de ce problème, en fait, et moi, c'est évidemment, on est tous bouleversés. J'ai une fille qui a 1 an et demi de plus. Que Liana, c'est difficile même à la limite pour moi de parler un peu à tête reposée de cet atroce fait divers, de cet atroce drame. Mais la réalité, c'est qu'on a un problème systémique en France. Enfin, pardon, on parle des enfants, on parle des femmes, on parle des violences sexuelles. On parle tous les jours d'hommes. Alors c'est notre même, tous les hommes sont pas responsables, mais c'est toujours des mecs. C'est toujours des mecs qui sont responsables. Et à un moment donné. C'est pas pour être populiste que de dire ça, mais moi, il y a des jours où je me regarde dans la glace le matin, je me dis, putain, pourquoi c'est encore des gars? Pourquoi c'est toujours des mecs? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai pas arrêté des gars dans la rue? Est-ce que j'ai pas, moi aussi, à mon niveau, essayé de jouer mon rôle? Est-ce qu'on n'a pas tous failli, collectivement, à jouer notre rôle et à, mais en réalité, il y a un problème. L'autre jour, sur Internet, on voit un jeune qui traque, un pédophile. Aujourd'hui, c'est une jeune fille. Les condamnations. Elles sont nulles. Elles sont pas au niveau, les condamnations. Les condamnations, aujourd'hui, vous ramenez 2 kilos de shit en France, vous allez faire du ferme. Mais en revanche, si vous touchez un gamin, vous allez prendre 10 mois de sursis. Mais comment c'est possible? Pardon? Le risque, le péril immédiat, la sanction pénale, elle est là pour sanctionner et pour protéger la société. Il n'y a pas de sanction pénale dans les crimes qui touchent les femmes et les enfants. Pas assez de sanctions. Moi, je voudrais que chaque homme qui à un moment a potentiellement une conduite pas normale ait peur de la sanction et pas que qu'on mette le focus sur ces problèmes-là. Pardon, tu parlais tout à l'heure très justement des tirs de mortier, etc. Il y en a plein des problèmes, mais en fait c'est eux qui doivent avoir peur, c'est eux qui doivent se dire pardon, oui, s'il doit y avoir une sanction, il y a des magistrats, il y a des juges qui n'ont pas fait leur boulot, c'est sûr. Et à un moment, ils doivent payer eux aussi, c'est pas normal. Ils ont des responsabilités.
Il va y avoir une enquête.
La vie des hommes, la vie de personne entre leurs mains.
Pour mesurer la responsabilité de chacun.
Voilà, moi j'en parle avec. Pardon, mon discours n'est pas forcément très clair, mais c'est. Il n'y a pas de sanctions, putain. Il n'y a pas assez de sanctions, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi demain, je veux.
Mais on a été plus vite pour les costumes de François Fillon.
Ah oui.
Je veux dire que. Non, mais il y a un truc à un moment.
Parce que ce sont des choix politiques.
Ben oui, mais ça va pas.
Ce sont des choix politiques. Voilà. On peut émettre toutes les circulaires qu'on veut sans donner les moyens. On peut rejeter la faute sur les exécutants d'un système que l'État lui-même a abandonné. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête.
Alors, on a Giuseppe qui est en ligne avec nous. Vous êtes très nombreux à nous appeler sur ce débat. Il nous appelle de Montémont, en Savoie. Il est hôtelier restaurateur. Bonjour Giuseppe.
Bonjour.
Voilà, et je sais que vous êtes vous aussi, bah, tout le monde est évidemment très touché par cette affaire. Est-ce que vous dites vous, Giuseppe, vous êtes papa de deux petits garçons. Est-ce que vous dites il faut frapper fort, voilà, dans cette affaire, dans ces affaires, et il faut qu'il y ait des sanctions pour une fois.
Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? Il faut frapper fort dans ces affaires? Est-ce que vraiment?
Bah oui, parce qu'on frappe jamais fort, donc oui.
Non, mais c'est évident qu'il faut frapper fort dans ces affaires. Mais là, moi, je m'en fous de Darmanin. Je me fous de tout le système. Il est bien, il est pas bien. Et c'est de la faute du fait qu'on n'ait pas de moyens, etc. Moi, je reprends l'histoire. À un moment, on a eu plusieurs signalements et des fonctionnaires de police, des magistrats. Donc, il y a eu là des humains, parmi certains des parents, ok, qui ont eu la formation qui s'est d'une personne à l'autre, ok. Alors moi, quand je hôtelier restaurateur, je vous fais un exemple. C'est si moi demain j'arrête de bosser une demi-heure avant, les clients vont m'en vouloir parce que je les ai pas servis jusqu'à la fin du service. Là, on parle de gens qui font un métier de vocation, d'accord, qui doivent s'occuper d'affaires judiciaires importantes, d'enfants de 11 ans, d'accord. Et là, il s'est passé je ne sais pas quoi dans la nonchalance totale dans la chaîne, d'accord, qui fait qu'il y a une gamine au bout de la chaîne qui est morte à 11 ans. Oui, je suis père de deux enfants. Je ne sais pas encore comment les parents de Liana, là, ils sont encore en train de ne pas péter les plombs. Moi, personnellement, alors je ne sais pas si c'est le côté italien,
la douleur. Sais rien,
mais là, je serais en train d'allumer des feux partout, là. Je serais en train de faire de monter une révolution. On est à ça.
Je pense que, vous savez, la douleur doit être telle qu'à mon avis, il pense à autre chose.
Non, mais au niveau de la France, excusez-moi Estelle, on est à plus grand chose. Hein. On est à une connerie près là. Hein. Parce que entre tout ce qu'on entend passer sur le dysfonctionnement de l'État à tous les niveaux, l'argent qu'on paye de combien 370 impôts, on a, c'est ça le sujet d'après,
okay, 348 taxes.
Qu'est-ce qu'on en fait avec notre pognon? Moi, j'ai même pas mis un pas dans l'entreprise quand je l'ai créé, qu'on m'a demandé une cotisation provisoire, monsieur. Une cotisation provisoire. Provisoire pourquoi? Provisoire de quoi? J'ai même pas rentré un PECO encore. Et avec cet argent, ils font quoi? Ils font quoi avec le pognon que je me suis 200 heures par semaine, hein? C'est quoi l'idée, là? C'est quoi cette histoire? On est à ça, hein? Là, Liana, c'est encore un petit élément, mais je sais pas. Moi, je sais pas, je pète un boulot. Je me fous de Darmanin, je me fous de qui est dans la chaîne. Il y a eu des humains, à un moment donné, qui devaient faire leur travail. Et là, il y a une gamine qui est morte. Je comprends pas. Excusez-moi pour le coup de gueule. Oui, j'ai deux enfants. Je me mets à la place de ses parents. Je sais pas comment ils font. Je sais pas.
Non mais ce coup de gueule, Giuseppe, je pense que tout le monde le partage et que tout le monde se dit effectivement aujourd'hui. Alors c'est un peu pêle-mêle, voilà ce que vous dites. On paye plein d'impôts, on paye plein de choses et finalement, bah, on sait pas où est l'argent. Finalement, en fait, ça sert à rien. On peut mettre des moyens, etc. Mais il y a des erreurs humaines. Personne ne paye jamais et c'est un peu ça. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a énormément de Français aujourd'hui qui se posent des questions et qui sont atterrés, très tristes pour cette petite, parce qu'on se dit tous, bah, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être ma nièce, ça aurait pu être ma sœur. Et ça touche tout le monde, ce drame, mais aussi parce que tout le monde se dit, bah, on aurait pu l'éviter, en fait. Voilà, encore une fois, il a été signalé 9 fois, Jérôme B. Il a été viré d'un établissement scolaire parce que il avait un comportement étrange vis-à-vis d'une lycéenne. Il y a une maman qui avait porté plainte parce qu'il avait une relation avec une gamine de 17 ans. Une autre maman qui a porté plainte, il a violé une gamine de 10 ans. C'est la maman de Liana. Elle avait dit, oh là là, il y a un problème. Le club de sport, ils avaient dit, il y a un problème. En fait, tout le monde a vu qu'il y avait un problème. Tout le monde aujourd'hui dit, ah oui, c'est vrai qu'il était un peu bizarre. Et personne n'a rien fait. Alors que, en fait, la marche à suivre, elle a été faite. C'est-à-dire que la maman de la petite gamine de 10 ans, elle a été portée plainte pour viol. Et on n'a même pas entendu en un an. On n'a même pas entendu ce monsieur. Mais je me dis, mais la maman de cette gamine, à qui en plus on a dit au commissariat, si vous continuez à nous appeler pour insister, c'est vous qu'on va mettre en garde à vue. Mais c'est hallucinant quand même. Et là, je suis désolée, Yael, il y a évidemment des responsabilités. Vous pouvez défendre vos amis de la magistrature. Mais enfin, à minima... Mais quand même un truc qui va pas.
De toute manière, on verra avec le rapport. Ça, c'est une évidence. Mais je veux dire, les sanctions, elles sont déjà, c'est déjà prévu. Je veux dire, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des procédures qui peuvent être engagées pour engager de la responsabilité d'État pour faute lourde. Mais le chef de tous ces gens, c'est qui? Le chef, il y a des responsabilités.
Mais c'est pas lui qui a pas
mais
fait
je m'en
de film pendant
sont là
un an,
depuis 10 mois. Alors ça veut dire quoi? Il y a personne qui est responsable. On va faire sauter des têtes, on va prendre des boucs émissaires, on va leur dire c'est votre faute.
Moi je voudrais qu'on m'explique en fait pourquoi. Alors il y a dysfonctionnement évident dans l'affaire de la petite Liana. Mais d'une manière plus générale, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on prononce des peines de sursis quand il y a des violences sexuelles sur des enfants. Qu'est-ce qui justifie du sursis? Qu'est-ce qui justifie du sursis?
Bah, la loi.
La loi. Non, mais, et la non, décision de justice, elle est là pour protéger la société. La protéger la société. On condamne des auteurs d'attouchements sur des enfants à du sursis. Il y a un problème.
Merci beaucoup, en tout cas, Giuseppe, pour ce coup de gueule. Merci d'avoir appelé. Nous sommes également avec Eric de Montélimar dans la Drôme. Il est conducteur de travaux et papa de 3 enfants. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écouté le discours de Gérald Darmanin et vous vouliez réagir à ce sujet, Eric.
Tout à fait. Alors, je trouve cette déclaration qui affirme qu'il ne prendrait pas de vacances. Ses propos sont déplacés pour moi. Par rapport au drame que traverse la famille de la jeune Yana, bon, il prend pas de vacances. Elle, la petite, elle ne prendra plus de vacances. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'il est indispensable de s'interroger sur les responsabilités au sein de la chaîne pénale, ça c'est sûr, lorsqu'il y a un dossier de mal géré qui aboutit à un tel drame. Voilà, des comptes doivent être rendus. Là, il ne rend pas du tout de compte. Quoi. Donc, pour ma part, je considère que bah, les responsables qui sont en charge de la justice, donc Gérald Darmanin, même le ministre de l'Intérieur, doivent démissionner. Voilà. Ainsi que le procureur, les magistrats. Hein. En fait, c'est une question de respect pour la victime, pour sa famille et puis pour nous, citoyens. Nous, depuis qu'on est né, on nous demande qu'il faut faire des droits, des devoirs. On travaille, on paye des impôts. Et puis là, on nous dit on n'a pas assez de moyens. Et du coup, tout cet argent qu'on paye de plus en plus chaque année, ça va où, en fait? Donc, les moyens, je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est un peu de courage politique qui manque, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de messages dans ce sens, voilà, mais pourquoi on paye, en fait? Pourquoi on est taxé? Pourquoi? Voilà. Et exactement. Et ce ras-le-bol de pas savoir à quoi sert l'argent finalement. Merci Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et c'est vrai qu'on a énormément de messages au 3216 sur le WhatsApp sur ce sujet. On va continuer évidemment après la pause. Petite précision concernant Gérald Darmanin qui exclut de démissionner, Victor.
Et qui a été questionné sur cette question et qui répond que la question de sa présence, sous-entendu au gouvernement, se poserait s'il n'avait pas assumé sa responsabilité. Il se pose lui-même la question. Est-ce que j'ai fait mon travail de garde des Sceaux? L'inspection le dira, le Parlement est là pour le contrôler. C'est ce que dit le ministre de la Justice il y a quelques instants.
Je vous le disais, beaucoup de messages sur le WhatsApp et au 3216. On aura une policière dans un instant qui a été policière pendant 8 ans à la brigade des mineurs. Elle nous expliquera justement comment ça se passe. Comment on a pu avoir ce type de dysfonctionnement? Comment ça se passe quand une maman justement va porter plainte en disant je crois que ma petite fille a été violée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est Vanessa, policière, qui nous dira ça dans un instant. Et puis continuez à nous appeler, continuez à réagir. Beaucoup de messages également sur le WhatsApp, hein, Victor.
Tout à fait, on a plusieurs questions qui se posent. Question de Gérald, de la démission de Gérald Darmanin. Julien et Vérodique disent non, ce n'est pas lui, il n'est pas là depuis longtemps. On rappelle qu'il est ministre de la Justice depuis un an et demi, tout d'abord sous François Bayrou, ensuite sous Sébastien Lecornu.
Ah, vous êtes très nombreux à être en colère. Bah, écoutez, continuez à réagir au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 06 12 424 424. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi et demi, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Victor Pourchet, avec également Jérôme Lavrieux, Yaël Mellul et Baptiste Desmontiers. On continue de parler bien sûr des conséquences de l'affaire de la petite Liana, cette collégienne retrouvée décédée il y a quelques jours. Maintenant, Mathilde Panot, la chef de file du groupe LFI, demande la démission de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux qui s'exprimait il y a quelques instants au ministère de la justice. Écoutez.
J'ai redit ce matin aux procureurs généraux deux choses très simples. D'abord, que nous attendions du ministère de la justice, comme de tous les services de l'État, qu'il assume ce service public, les défaillances, les fautes lorsqu'il y en a. Qu'il faut savoir se remettre en cause et qu'il faut dire la vérité aux Français. Lorsque nous n'avons pas su protéger des enfants qui plus est, nous devons savoir le dire. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec.
Voilà, Gérald Darmanin qui prend ses responsabilités. En tout cas, de très nombreux Français ont été émus, bouleversés, choqués par le décès de la petite Liana. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à réagir sur notre WhatsApp 0612 424 424, Victor.
Et tout à l'heure, je vous lisais les messages de Julien et de Véronique qui étaient plutôt contre une démission de Gérald Darmanin. On a Eric, au contraire, qui lui est pour. Il nous dit Gérald Darmanin est doublement responsable parce qu'il a été en plus ministre dans d'autres ministères avant d'être garde des Sceaux. Et puis on a Olivier aussi qui nous parle de ce choix politique et qui revient sur ces circulaires. Il nous dit, oui, il y a bien eu une circulaire pour mettre en priorité les plaintes pour violence sur les enfants, mais il y en a aussi tellement d'autres qui mettent la priorité sur les stupéfiants et sur d'autres types de délits que Olivier nous dit, à force de mettre la priorité sur tout, on ne la met sur rien.
Alors, nous avons avec nous Vanessa, qui est policière dans le Sud-Ouest, policière depuis 26 ans, dont 8 ans en brigade des mineurs. Bonjour Vanessa.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Tout d'abord, c'est vrai qu'on est tous choqués par le fait que avant l'affaire Liana, il y a une maman qui avait porté plainte pour le viol de sa fille de 10 ans et jamais le suspect Jérôme B n'a été entendu, jamais on ne l'a interpellé dans cette affaire. Est-ce que vous comprenez comment c'est possible, parce que nous on ne comprend pas en fait sur le plateau?
Alors en fait, c'est pas si facile que ça. Il faut être totalement honnête. Vous avez une plainte qui est déposée dans un parquet qui est différent du parquet initial. Mmh. Donc en fait, il y a cette plainte doit revenir au parquet initial. Donc déjà, il y a un laps de temps, sachant que les parquets sont débordés de boulot. Alors oui, effectivement, c'est une plainte de viol. Je vais pas me faire des amis, mais que les choses soient très claires. Le problème qu'il y a dans cette thématique-là, c'est que vous avez les vraies victimes et les fausses victimes. Je m'explique. Les fausses victimes, ce sont des personnes qui viennent déposer plainte parce qu'il y a pour des faits de viol, parce qu'il y a des rumeurs au sein de l'établissement et que ce n'est absolument pas avéré. Moi, ça m'est arrivé déjà. Deux gamines qui sont venues déposer plainte pour des faits de viol, alors que c'était faux. C'était uniquement les garçons qui avaient dit, oh ben, elle nous a fait ça, elle nous a fait ça, et qu'elles avaient une mauvaise réputation. Donc là, déjà, ça, on ne peut pas, c'est pareil, on ne peut pas le laisser passer, il faut investiguer dessus.
Oui, il faut investiguer, donc, mais c'est ce que vous dites, mais là, il n'y a même pas eu d'investigation.
Mais alors, excusez-moi, vous connaissez pas le dossier.
Voilà, oui, c'est vrai.
Moi non plus. On ne peut pas entendre un mise en cause tant que les investigations n'ont pas été menées. C'est pas possible. Le mise en cause, c'est en dernier lieu. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose. C'est que là, on parle, il aurait fallu l'interpeller. Oui. On est en préliminaire. Préliminaire, on n'a pas le droit de l'interpeller. À moins d'avoir un article 78 qui nous est délivré par un magistrat. Donc, sinon, on n'a pas le droit de l'interpeller. On est obligé de le convoquer.
Mais il a été mis en cause dans 9 affaires, Vanessa.
Oui, mais c'est comme ça. C'est la loi. C'est du préliminaire. Donc, on n'a pas le droit de l'interpeller, à moins d'avoir un article 78. On doit le convoquer. Convoquer, ça veut dire que s'il ne défère pas, il n'est pas sanctionné. Et on attend, et on attend, et on attend. Il faut savoir une chose que tout le monde oublie aussi, c'est que des plaintes, on en a des centaines et des centaines.
Alors, mais vous n'avez pas des petites filles de 10 ans. En fait, là quand même, enfin pardon, la mère, elle vient, elle dit que son enfant de 10 ans a été violé. Ce monsieur Jérôme B, il a deux gamines. Ne serait-ce que pour mettre ses gamines, je veux dire, à l'abri, moi je ne comprends pas, pardon, hein.
Non, mais je comprends ce que vous me dites. Je comprends ce que vous me dites. Après, je ne connais pas le dossier, donc c'est compliqué de dire les choses quand on ne connaît pas le dossier. Là, on parle de viol, on est d'accord. Au préalable, on avait parlé d'agression sexuelle. Comment voulez-vous prouver? Mais voilà, et c'est la loi. Comment voulez-vous prouver une agression sexuelle s'il n'y a pas de traces? Donc tout le monde s'offusque que c'est classé sans suite, mais quelque part c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Ouais, mais là il y a 9 affaires.
Oui, non, mais maintenant on le sait qu'il y a 9 affaires, Estelle, mais on le savait pas au départ.
J'entends.
On le sait.
Mais c'est terrible ce que vous dites, on peut rien faire en fait.
Mais c'est pas qu'on peut rien faire, nous on fait tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut, vous n'imaginez pas. Tout ce qu'on fait et la santé qu'on y laisse dans cette matière-là. On n'imagine pas. Le problème, c'est qu'on est surchargé de boulot. D'accord. L'investigation, c'est une catastrophe. Alors aujourd'hui, on veut faire démissionner Darmanin. Mais non, mais d'où? C'est les responsabilités individuelles, que ce soit chez les gendarmes ou au parquet, s'il y a une faute qui a été commise par un magistrat qui, entre parenthèses, ne sont jamais sanctionnés. Donc qu'une faute soit commise par un magistrat, et dès qu'il assume sa faute, si c'est par un gendarme, et dès qu'il assume sa faute. Mais à un moment donné, il faut savoir dire qui est responsable dans cette histoire. Et on ne peut pas, faire une généralité, c'est pas possible.
Bien sûr, j'entends. J'entends, mais c'est vrai que cette affaire, elle bouleverse tout le monde. Et merci Vanessa, vraiment, pour ce témoignage, parce que bah voilà, on comprend qu'effectivement, on comprend mieux le fonctionnement finalement de la justice, et que c'est pas si facile effectivement. Mais oui, ça nous bouleverse, et c'est très difficile d'entendre qu'effectivement, bah aujourd'hui, on peut porter plainte pour dire qu'une enfant a été violée de 10 ans et que bah ça va pas être pris en compte tout de suite parce qu'il y a l'administration, parce qu'il y a tout ça. Mais c'est très très dur à entendre évidemment. Merci pour toutes ces explications. Vanessa, Jérôme Lavrieux.
Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a pas de bon sens, en fait. Quand il faut un mois pour envoyer un dossier par la poste, il y a personne qui dit, OK, la procédure, c'est un mois par la poste, mais il y a un gamin qui est une gamine qui est en jeu. Il y a comme vous l'avez rappelé,
les enfants
du suspect. Il y a personne qui dit, je vais passer un coup de fil et je t'envoie un mail. On est collègues, on est procureurs. Je t'envoie un mail, voilà, tu vas le recevoir, ça va prendre, tu sais, très bien, notre administrateur est complet. Je te passe un coup de fil, je t'envoie un mail. Faut vite faire quelque chose. Ben, bien sûr qu'on arrive à vite faire quelque chose. Mais si on dit, bon, en fait, à la fin, on ne juge même pas, on ne regarde même pas le prénom de la petite fille. On regarde pas le nom, on regarde un numéro de dossier. Voilà. Et on a envoyé un dossier, alors qu'en fait, c'était pas un dossier. C'était des vies potentiellement mises en danger. Je disais de passer un petit coup de fil, puis la procureure qui reçoit le dossier, plutôt que de reprendre 15 jours, 3 semaines pour envoyer aux gendarmes les plus proches du truc, eh ben fallait allô adjudant chef. Là on a un problème.
Mais non, mais allez regarder tout de suite. Ça se passe pas comme ça.
Si, et puis dans les gendarmes, ils auraient entendu quelque chose.
Ça m'a fait une histoire. Il y a des soins transmis. Le parquet de Toulouse n'était territorialement pas compétent. C'est la raison pour laquelle ils sont transmis au parquet d'Auch. C'est pas un mois, c'est 12 jours. Après,
il y a deux mois.
Ok, une fois que le parquet d'Auch était désigné, il faut que lui-même désigne une brigade. D'accord.
Te remercie de dire que j'ai raison dans ce que je viens de dire.
Mais au moins, t'appelles la gendarmerie du
pays. On est en manque d'experts aussi. On est en manque d'experts psychiques.
On le saura jamais.
Ce sont des affaires extrêmement complexes.
Tu passes un coup de pied au commissariat. Peut-être que les policiers. C'est pas une grande ville. C'est un tout petit patelin.
La brigade de gendarmerie avait 200 dossiers à ce
moment.
S'il y avait des affaires de viol,
il n'y a pas 200 violeurs à la brigade de Hoche.
Il y avait deux affaires de violence sexuelle, y compris sur mineurs, dans la brigade de gendarmerie. Voilà.
Juste un truc aussi. Pour revenir sur ce que disait Vanessa, on se rend bien compte que le travail des enquêteurs, il est très compliqué. Il est compliqué.
On le saura jamais, puisqu'ils n'ont pas enquêté.
Attends.
Non, mais on se rend compte
que c'est compliqué. On se rend compte qu'il y a un millefeuille de normes, de trucs. C'est un parquet qui est saisi, pas l'autre, etc. Le problème, c'est quand une affaire finit, grâce au travail de Vanessa et des enquêteurs, grâce au travail de certains magistrats qui ont fait leur boulot, quand une affaire de violence sexuelle sur des enfants finit par être jugée, il se passe quoi? Pardon? Il se passe du sursis. Trop souvent, il se passe du sursis. Donc moi, je suis désolé. On peut évidemment aller se poser des questions sur les dysfonctionnements locaux, mais il y a toute une chaîne qui fonctionne mal. Et qu'à un moment donné, je me mets à la place de Vanessa, quand on galère pour monter des dossiers, mais que derrière, la justice sanctionne avec du sursis. Pardon, excusez-moi. Moi, il y a un problème au niveau de la justice. Et moi aussi, je suis plutôt derrière la justice à fond. Mais là, pardon, il y a des responsabilités. Et s'il y a des têtes qui doivent tomber, elles doivent tomber. Il y a des sanctions qui doivent être prononcées contre ces auteurs, mais aussi contre ceux qui ont mal fait leur travail. Et je suis désolé, là, en l'occurrence, il y a visiblement des enquêteurs, mais il y a aussi des magistrats qui ont mal fait leur boulot.
Nabil est avec nous, nous appelle de Saint-Laurent-de-Mur, dans le Rhône. Il est gérant d'un bureau d'études. Bonjour, Nabil.
Bonjour, tout le monde.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Allez-y, Nabil, vous voulez réagir sur cette affaire?
Moi, je réagis sur cette affaire. J'ai une deuxième question. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les violeurs d'enfants qui sont en liberté? Ou, dans le même cas, on sait qu'ils ont des dossiers sur eux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller les chercher. Il va falloir aller les chercher parce que tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Mais personne ne va les chercher, en fait. On attend qu'il se passe ce qui s'est passé avec la petite. Et c'est pas la première fois. Donc, il y a un moment, il va falloir réagir. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que va faire la police de tous ceux qui sont en liberté? Et je pense qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on lit les réseaux sociaux et on sait même des fois qu'il y a des gens, c'est des violeurs, mais ils sont en liberté parce qu'ils ont du sursis. Comment on peut laisser...
Oui, il y a des contrôles judiciaires
un mec
aussi.
Qui est violeur. Oui, mais on sait que c'est un violeur multirécidiviste. Bon, on le laisse en liberté. Ça, c'est la première chose. Et après, là, j'ai pas intervenu... La policière a eu le temps de se justifier. Mmh. Moi, la question que je me posais, c'est qu'il y a des personnes qui sont allées porter plainte pour cette affaire-là. Mmh. On a attendu la quatrième, cinquième plainte et ce qui se passe, ce drame. Mais il n'y a pas quelqu'un dans le commissariat qui se dit, bien sûr, on attend le fax, mais qui se dit, on va peut-être aller le chercher, lui faire une petite garde à vue. On va faire quelque chose.
Mais au moins, en fait, on l'appelle, parce que j'imagine que quand on appelle un père de deux enfants au commissariat, il évite de le refaire. Quand la personne sait que, je veux dire, il y a l'œil du cyclone qui est au-dessus, et qu'on le regarde et qu'on le suit, bah, il va éviter d'aller apporter des goûters aux enfants, je veux dire, à la sortie de l'école, c'est sûr.
Bah là, il a eu le temps de se promener, de faire ce qu'il avait à faire, une fois, deux fois, trois, il y a pas. Moi, je vais pas incriminer les parents, après chacun. Mais il y a un moment, je suis parent, il m'arrive ça. Mais je le lâche pas, le commissariat. Mais le mec, je vais le chercher, c'est moi.
Elle l'a fait, et on lui a répondu, si vous continuez, c'est vous qu'on mettra en garde à vue.
Je vais le chercher. Bah, malheureusement, chacun fait comme il veut. Bah, moi, c'est moi, je vais lui faire la garde à vue.
Le problème, c'est que
prison, je m'en fous, mais je vais aller au bout des choses. Je vais pas laisser un gars se balader, aller violer d'autres enfants, à faire des pyjamas parties.
Oui, mais regardez,
en tant que parent, si on nous dit, si mes enfants me disent je vais chez une copine, bah malheureusement, la première chose qu'on va penser, c'est à cette histoire. Il n'y a plus personne qui va aller chez plus personne.
Ouais, mais le problème, c'est que l'histoire de la première petite fille qui a été violée, quand la maman a porté plainte, c'était une gamine du club de sport en fait de la ville, et il y a eu d'autres signalements, mais là pour le coup au collège, la petite Yana, c'était au collège, elle ne connaissait pas l'autre gamine, donc il y a pas pu avoir de lien, les parents se sont pas parlé pour dire attention, il y a quand même un petit problème avec ce monsieur, etc.
Moi, je veux bien qu'on jette tout le discrédit sur les gendarmes, sur les procureurs, ce qu'on veut, mais aujourd'hui on a un ministre de la justice qui vient nous dire, qui vient mettre la pression sur les procureurs en disant, d'ici le 14 juillet, il faut traiter 70 000 plaintes.
Ouais.
Rien que ce chiffre, ça nous montre...
Ça veut dire qu'elles n'ont pas été traitées,
Oui, mais ça veut dire qu'elles n'ont pas été traitées parce qu'elles n'ont pas pu être traitées. Voilà, quand on a un procureur ou deux procureurs dans un territoire pour traiter de tout le contentieux, il ne peut pas faire correctement son travail.
On va mettre
d'accord, parce qu'il n'y a pas que les procureurs, il y a le personnel avec lui, il y a les greffiers, on est en mode de greffier.
En fait, au moins tu les convoques au commissariat, c'est à minima.
Oui,
quand
mais
même.
Non, tu convoques au commissariat ou à la gendarmerie. La garde à vue, ça vient à la fin des investigations.
Yael.
Parce qu'il faut monter un dossier, Yael, c'est comme ça.
Je connais des gens qui ont été convoqués à la gendarmerie, tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une paire de baskets et qu'en fait, ils ont mis juste merci telle marque devant la paire de baskets. Ils n'ont pas mis collaboration commerciale, d'accord? Ils ont été reçus par la gendarmerie, ils ont été convoqués à la gendarmerie.
J'ai
alors à un moment. Pardon, excuse-moi, je suis désolée. Ben moi, je préfère qu'on convoque quelqu'un qui a potentiellement violé une gamine plutôt que quelqu'un qui a reçu une paire de baskets et qui a oublié de marquer collaboration commerciale.
C'est sans connaître l'État. Tu parles sans connaître l'état de la justice dans ce territoire. Le député du Gers, il a fait une question au gouvernement il y a très peu de temps en disant qu'il y avait un manque de magistrats dans son territoire, d'accord? Donc on savait qu'il y avait déjà des dysfonctionnements.
Et c'est pas les magistrats, c'est les policiers qui auraient pu l'écouter.
Et c'est le ministère de la Justice, il n'a rien fait derrière.
C'est vrai, tu as raison. Enfin, en tout cas, il y a eu des dysfonctionnements. On verra lesquels, puisqu'il y a une enquête menée par Gérald Darmanin. En tout cas, on vous a posé la question, justement, Gérald Darmanin doit-il démissionner?
Et c'est très partagé sur le résultat de ce sondage. 51% de oui, mais on est vraiment à moitié-moitié.
Dans un instant, on change totalement de sujet. On va parler en fait de ces marques chinoises qui ne cessent d'innover dans les voitures électriques. Ce sera avec Anthony Morel, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on va parler voitures chinoises, voitures électriques chinoises aujourd'hui avec vous, Anthony. Car c'est une réalité incontestable. Aujourd'hui, dans le domaine automobile, eh bien, c'est des Chinois que vient l'innovation. La Chine est en train de totalement nous ringardiser.
Ben oui, c'est terrible. Je le déplore. C'est moi qui aime bien mettre en avant l'innovation française. Mais c'est vrai que quand on monte dans ces voitures, alors on peut citer quelques marques, hein, BYD, oui, XPeng, Xiaomi. Alors moi, c'est le fait de côtoyer des VTC qui m'a fait me rendre compte, en fait, de cette innovation-là, parce que j'en ai vu plein, de plus en plus qui ont des voitures chinoises et qui me disent, mais jamais je reviendrai en arrière, même par rapport à Tesla, par exemple, qui était la grande marque quand même, quoi, de l'innovation. Et ils disent, bah non, en termes de prix, en termes d'innovation intégrée, bah maintenant, c'est les Chinois. Et quand je me suis un petit peu penché sur la question, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des trucs absolument incroyables. Alors, pour vous donner quelques exemples, tiens, il y a un grand groupe chinois spécialisé dans les batteries pour les voitures électriques. Là, il y a quelques semaines, au salon de Pékin, ils ont annoncé une batterie à l'autonomie de 1500 km. Oh voilà, une charge, ouais, 1500
km. C'est un camion, ton truc.
Non. Alors, c'est vraiment, alors, c'est une belle batterie, hein, mais ça pourra permettre à des voitures électriques de rouler 1500 km sans s'arrêter. Et alors, attendez, c'est non seulement 1500 km, mais le temps de recharge, c'est moins de 7 minutes pour une recharge à 100%.
Mais j'achète direct.
Voilà, alors c'est complètement fou.
C'est en vente.
Alors, il faudra, c'est pas encore en vente, ça a été présenté, c'est sur des salons pour l'instant, mais c'est, ça veut dire que ça va arriver sur le marché, là, dans les années ou dans les mois qui viennent, en tout cas. Faudra tester en conditions réelles, c'est toujours pareil. Il y a toujours un peu d'exagération. Mais quand même, c'est des chiffres qui sont quand même complètement dingues. Après, c'est aussi sur des fonctionnalités, bon, qui sont plus ou moins utiles, mais qui sont quand même assez dingues et qu'on n'a pas encore en Europe. Tiens, par exemple, on a des aides au stationnement en Europe. Ça existe depuis longtemps. Eux, ils ont un truc assez incroyable sur certains modèles. C'est, vous allez pouvoir juste appuyer, donc vous scannez, la voiture va scanner son environnement, d'accord ? Vous avez un écran qui montre les places de parking, vous cliquez avec votre doigt sur la place que vous voulez, et la voiture va se garer toute seule.
Je veux ça.
Vous avez rien à... Ah oui, bien sûr, moi aussi je veux ça, tout le monde veut ça. Vous pouvez même sortir de la voiture, elle se débrouille toute seule, vous allez faire vos courses, la voiture se gare toute seule.
Oui, ça, faut voir, je suis pas prête.
Il faut avoir confiance. Alors si vous avez, alors encore pire ou encore mieux, j'allais dire, sur le stationnement, il y a le mode stationnement parking crabe. Alors ça, j'adore, c'est-à-dire que vous êtes sur une place qui est un peu limite, va falloir y aller au chausse-pied. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle va pivoter tout simplement.
Très bien, la voiture.
Oui, je fais très bien la voiture chinoise. Et le crabe aussi. Non, mais tout est bruité à la bouche ici, vous savez bien. Et la voiture, eh bien, elle va venir s'insérer, en fait, dans l'emplacement et vraiment au millimètre près, pour le coup. Donc là, même si ça passe vraiment limite, la voiture va venir se garer. Voilà, c'est quelques exemples comme ça, mais il y en a plein en réalité.
Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple?
Alors, il y a par exemple, sur les GPS, tiens. Le GPS, alors, on a Google Maps, on a Waze. Eux, ils ont un truc qui s'appelle AMAP, qui est assez dingue. Alors, c'est un peu les mêmes fonctionnalités, mais il y a des trucs qu'on n'a pas. Par exemple, la synchronisation en temps réel avec les feux de circulation. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que sur le GPS, vous voyez précisément à la seconde près combien de secondes il reste avant que le feu passe au vert ou avant que le feu passe au rouge. Voilà, c'est un petit truc, mais c'est pas mal, voilà, d'avoir cette fonctionnalité là. Vous avez aussi, alors toujours pour la circulation, mais là on arrive dans les fonctionnalités gadgets un peu dingues. On est parti du plus simple pour aller vers les trucs les plus foufous. C'est le drone embarqué dans la voiture qui va aller vérifier s'il y a du trafic un peu devant.
Là c'est Matrix quoi.
Là ils vont peut-être un peu trop loin.
Là vous m'avez perdu là.
Ah non, mais c'est génial. Attendez, donc vous avez un drone en fait qui est embarqué soit dans le coffre, soit dans le toit de la voiture, et vous pouvez le faire sortir. Alors, je disais, c'est pour aller vérifier la circulation, ça peut être vérifier s'il y a un accident un peu plus loin devant, ça peut être aussi pour faire des photos du paysage quand vous êtes en train de vous balader aussi. Mais on est d'accord, mais encore une fois, c'est des démonstrations de force technologique, c'est ça qui est intéressant. On dit souvent, ou on a souvent dit, ou longtemps dit, que la Chine se contentait de copier les innovations occidentales. Ah ben là, pour ceux qui pensent encore comme ça, vraiment, ils nous mettent complètement à l'amende, quoi.
Et le plus fou de tout ça, c'est que ces voitures sont moins chères que les européennes.
Et
quoi.
En plus, elles sont moins chères. Alors, vous avez quand même des modèles très haut de gamme qui sont un peu chères, mais quand on compare spécification technique versus spécification technique, en général elles sont plutôt moins chères. Le dernier petit truc, un truc complètement dingue, c'est la voiture qui est capable de sauter au-dessus d'un nid de poule, par exemple. Ça, c'est incroyable. Ça, ils ont mis au point un système.
C'est K2000, elle existait déjà.
Oui, c'est vrai, c'était K2000, David Hasselhoff, très bonne référence. C'était il y a quelques années, mais là, pour le coup, c'est pour de vrai. Donc, elle est capable, cette voiture. Alors, c'est une voiture de sport, hein, avec un système de suspension qui se comprime et qui se détend, de bondir
Ralentisseurs.
Attends, ouais, voilà. Pour les ralentisseurs, exactement. Non, mais c'est incroyable. C'est ça, je dis pas qu'on va tous avoir ça sur des voitures de série demain, on est d'accord.
T'es anti-Chine, anti-voiture électrique. Elle est déjà chez le concessionnaire, là. C'est incroyable. Merci beaucoup, Anthony Morel. Bon, bah, c'est pas génial, ça, pour nos constructeurs européens,
quand
même.
Je suis le premier à le déplorer. Il faut qu'ils innovent.
Non, mais c'est vrai que ces voitures sont bonnes. Il n'y a rien à dire. Chronique à réécouter en podcast, rmc.fr, l'appli RMC. Et toutes les plateformes de téléchargement. On parle de quoi demain?
Demain, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ah, très
très, très gros enjeu.
Quel rapport avec votre chronique?
Il y a des innovations, évidemment. Vous avez notamment des innovations qui permettent de lutter dans les cantines scolaires, d'analyser ce qu'on perd le plus pour pouvoir ensuite optimiser les recettes qu'on fait. Voilà.
Et ben merci beaucoup, Anthony Morel. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. Et puis à 13h30, on parlera de ce chiffre. 348 taxes, c'est le nombre de taxes qu'on a en France, c'est 60 pour l'Allemagne. On est évidemment champion d'Europe. Est-ce que notre administration est devenue folle? Et bien, c'est la question qu'on vous posera tout de suite.
RMC Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.